J'ai voulu que. J'ai songé qu'il serait bon qu'on examine ensemble ce que la Bible appelle un disciple. Il y a pas mal de mots, bien sûr, pour désigner les chrétiens dans les Écritures, les enfants de Dieu, l'Israël de Dieu, l'Église, les assemblées de Dieu, mais il y a un mot qui s'applique individuellement à chaque enfant de Dieu. Et c'est le mot disciple, un mot qui revient fréquemment dans les paroles du Christ. Et c'est un mot fascinant, lorsque nous nous donnons la peine de l'examiner d'ailleurs. Souvent, quand nous prononçons le mot disciple, nous ne pensons pas à tout ce que cela implique ou contient. Par exemple, combien de fois avons-nous fait en nous-mêmes un rapprochement entre les mots disciple et discipline ? Vous me direz, cela a l'air de tomber sous le sens. Pourtant, le faisons-nous ? Existe-t-il un mot plus proche de disciple que discipline ? Littéralement, le mot disciple, ça nous a été rappelé ce matin d'ailleurs dans la classe, le mot disciple voulait dire celui qui apprend. C'était celui qui suit un enseignement, celui qui suit un maître. Une idée très hébraïque d'ailleurs. Et ici, je demande votre attention sur le fait que le disciple n'est pas simplement un disciple parce qu'il accepte intellectuellement une doctrine, aussi bonne, aussi sainte soit-elle, mais c'est plus que cela. On est disciple si l'on suit coûte que coûte le chemin tracé par le maître, pas seulement si on accepte un ensemble de données intellectuelles. Plein d'un bon sens pratique, Jacques, dont nous avons une épître dans le Nouveau Testament, nous rappelle « mettez en pratique la parole » et quelque chose d'important, « ne vous bornez pas à l'écouter » et même il ajoute « en vous trompant vous-même par de faux raisonnements » et il commence par « mettez en pratique » même pas par « écouter » mais par « mettez en pratique » bien sûr, écouter seulement pour dire oui, ça c'est la vérité, ça c'est bien, ça c'est puissant, etc. Tout le monde peut le faire, ce n'est pas difficile. Mais être un disciple, c'est avant tout agir. Agir, bien sûr, après avoir entendu. Et agir conformément à ce qui est demandé. Pourquoi Jacques écrit-il que celui qui écoute pour oublier aussitôt, en somme se trompe lui-même par de faux raisonnements ? Tout simplement parce que sans vivre la parole, et ceci est important, sans vivre la parole, il est absolument impossible d'en expérimenter, d'en découvrir la force. Comme moi, je pense que vous avez tous été souffrants au moins une fois dans votre vie, sans doute plus que cela. Quand le docteur vous a prescrit une ordonnance, qu'en avez-vous fait ? Une ordonnance médicale avec un certain nombre de médicaments dessus qu'il vous faudrait prendre. Si vous n'êtes pas allé chez le pharmacien du quartier pour vous procurer les remèdes en question, les médicaments en question, en somme, à quoi vous a servi cette ordonnance médicale ? Ou à moi-même ? Si je l'avais jeté en boule dans une corbeille à papier, ça aurait été exactement la même chose. Elle n'aurait servi à rien, bien sûr. L'ordonnance médicale n'a pas le pouvoir de guérir, elle n'a pas de pouvoir magique en elle-même, parce qu'elle n'est tout au plus, finalement, qu'un morceau de papier, avec un peu d'encre dessus, et c'est tout. Par contre, si je me conforme à ce que dit ce morceau de papier, écrit par mon médecin, alors au bout de quelques jours ou de quelques semaines, je constaterai une amélioration dans mon état de santé. En tout cas, c'est à espérer. Et, mes frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour ce saint livre, qu'est la Bible, laissez-moi vous dire que, dans un sens, ça n'est que du papier et de l'encre. Ce livre en lui-même n'a aucune puissance. Vous voyez bien que cela ressemble à n'importe quel autre livre. Peut-être les onglets mis à part, pour ceux d'entre nous qui ont des Bibles à onglets. Mais c'est ce que ceci a à nous offrir qui importe. C'est ce qui est contenu dans ce livre qui importe. C'est la force extraordinaire que contient ce livre qui est importante. Mais bien sûr, uniquement quand on s'applique à obéir, à suivre, à accomplir la parole écrite dans ce livre. Et finalement, ce livre n'est pas la parole. Il contient la parole. Il contient la parole. Et de même, cette parole n'est la parole de vie, bien sûr que si elle est suivie, autrement elle n'a aucun pouvoir. Il nous était rappelé la semaine dernière que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, dit l'épistolier aux Hébreux. Mais n'oublions pas non plus qu'une épée qui reste dans son fourreau n'est guère plus dangereuse qu'une épingle de sûreté. Elle est la parole vivante et efficace, oui, si nous voulons qu'il en soit ainsi. Mais si nous ne la vivons pas dans notre vie quotidienne, il n'y a rien de vivant ni d'efficace. Bien sûr, je ne parle pas des erreurs que nous commettons tous journellement à cause de notre nature humaine et faible. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu d'amour. Il est toujours disposé à nous pardonner, heureusement pour nous. Mais ici, je parle plutôt de notre attitude générale devant la vie. Si vous voulez, il faut faire des efforts sérieux. Il faut faire des efforts pour être un disciple. Personnellement, le football ne m'intéresse pas, mais pour ceux d'entre vous, messieurs, que cela intéresserait, je ne pense pas que vous aimeriez suivre un match dans lequel la moitié des joueurs ne s'intéressent pas à ce qu'ils font, ne sont venus que pour être en somme fidèles, entre guillemets, envers leur club, et rien de plus, mais sans être engagés sur le terrain. Alors pourquoi Dieu devrait-il accepter des chrétiens tièdes qui ne se sentent pas trop concernés en dehors des heures de réunion? Ceux pour qui le christianisme n'est qu'une école de pensée ou une philosophie se trompent lourdement. C'est une vie nouvelle et rien de moins. Ces gens-là ne commettent-ils pas un peu la même erreur, ces gens qui voient le christianisme comme une philosophie comme une autre, une école de pensée comme une autre? Ne commettent-ils pas la même erreur que ces chefs religieux à qui le Christ disait « Vous êtes dans l'erreur » et il leur dit deux choses, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et que comprendrons-nous justement de la puissance de Dieu si nous ne nous conformons pas à ce qu'elle nous dit? Si nous ne conformons pas nos vies à la bonne nouvelle, cela restera une parole écrite, mais ce ne sera pas ce que Dieu veut qu'elle soit, c'est-à-dire la parole suivie, la parole vécue. Qu'est-ce qui fait de vous et moi, ou qu'est-ce qui doit faire au moins de vous et moi, des gens différents par rapport à ce monde, par rapport à l'homme de la rue? Le fait que nous lisons la Bible? Le fait que nous nous assemblons régulièrement autour de cette table chaque dimanche? Ou bien plutôt, tout cela est vrai, mais aussi et surtout le fait que nous essayons de progresser dans notre vie individuelle, lorsque nous sommes chacun de notre côté au cours de la semaine. Et je dirais que c'est plutôt ça. Comme je le soulignais au commencement, un disciple se soumet à une discipline, c'est-à-dire qu'il adopte délibérément de son plein gré une règle de vie et qu'il s'y tient, sans quoi bien sûr il n'y a pas de disciple. Quelqu'un dira, oui, mais alors vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et ce à quoi je répondrai au contraire, je peux faire tout ce que je veux du moment que Jésus le veut. Et ça fait déjà pas mal de choses. Si je fais mienne la façon de penser du Christ, si je fais mienne la façon d'agir du Christ, ma vie est loin d'être limitée. Au contraire, puisqu'il a promis, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Une vie limitée, une vie infinie. Et bien sûr, parlant de la richesse en esprit de ceux qui le suivraient. Mais il est certain que la vie chrétienne, et il faut bien l'admettre, que ça nous plaise ou pas, est une discipline en elle-même. C'est la raison pour laquelle il faut faire des efforts. Pierre avait dit dans une de ses épîtres, « Faites tous vos efforts afin de conformer vos vies, etc. » Mais il est certain qu'il faut faire des efforts et que cela n'est pas toujours facile ni agréable. Ainsi Paul disait à ses frères de Corinthe, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Dans le même passage, Paul établit un parallèle entre le chrétien et l'athlète qui s'entraîne sur le stade. Et le point qu'il fait ici, c'est que si l'athlète est prêt à s'imposer une dure règle de vie, beaucoup de sacrifices, et ceci pour une gloire en somme humaine, passagère, combien plus le disciple de Christ devrait-il être prêt à faire des sacrifices dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire vous et moi, non pas pour gagner son salut, bien sûr, il n'est pas question de ça, ce serait une utopie, mais pour devenir de meilleurs disciples, pour glorifier notre Maître, et pour consolider, pour renforcer ce que nous avons déjà. D'ailleurs, est-ce que cela n'est pas passionnant en soi-même? Est-ce que cela ne fait pas de la vie chrétienne quelque chose d'attrayant? Chaque jour nous apprend quelque chose de nouveau. Chaque lecture de la parole nous dévoile de nouvelles possibilités. Chaque épreuve même de notre vie prend un sens sublime, prend sa vraie valeur, son véritable sens. Je ne connais pas de vie plus attrayante, plus riche que celle d'un disciple authentique. Il est possible qu'un chrétien finisse par s'ennuyer, mais qu'il n'accuse personne d'autre que lui-même. Quand on s'ennuie en Christ, c'est qu'on y est déjà plus complètement. Par la plume de l'apôtre Jean, le Christ avait déclaré, non sans tristesse, je crois, à une assemblée du premier siècle, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Bien sûr, le Seigneur parle ici des trésors spirituels, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas tellement la pauvreté spirituelle en tant que telle que le Fils de Dieu condamne. C'est l'attitude qui fait que nous nous trouvons très bien comme nous sommes. C'est l'attitude qui fait que l'on dit, je n'ai besoin de rien, je veux rester pauvre, ou mieux, laisse-moi mes richesses et toi garde les tiennes, Seigneur. Sans discipline, comment arriverons-nous à trouver journellement un moment en tête à tête avec le Seigneur, dans la prière et dans l'étude, toutes deux si nécessaires à notre maturité? Sans discipline, comment prendrons-nous au sérieux les heures de réunion en commun? Mais il est un autre aspect de la discipline qui est, me semble-t-il, souvent trop ignoré, et c'est la discipline de la pensée, la discipline de notre esprit. On n'en parle pas souvent, et c'est un tort, la Bible a beaucoup à dire là-dessus. Je souhaite que nous soyons tous et toutes fervents dans la prière et dans l'étude, mais le reste du temps, passons-nous quelques instants parfois à surveiller nos pensées au cours d'une journée. Et c'est là que Satan est souvent le plus fort. Le cerveau humain est beaucoup plus complexe que la meilleure des horloges. Il ne s'arrête jamais. Le cerveau et l'esprit humain sont encore bien mal connus, même aujourd'hui, par la science moderne. Et dans un certain sens, ça échappe à la science. Que faisons-nous de nos pensées? ce sujet, la parole a un très beau passage. Que voici, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et on va dire la pensée positive déjà au premier siècle? Oui, pourquoi pas? Bien avant Dale Carnegie? Non, les hommes n'ont rien inventé. Et le contrôle de la pensée est quelque chose de très important. Le contrôle de nos attitudes mentales est quelque chose de très important. Nous serions plus près de Dieu, sûrement, si nous prenions ce verset à la lettre, et moi le premier. Car après tout, il faut que Dieu règne d'abord sur nos pensées, avant qu'il ne règne sur nos vies. C'est une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné, afin de nous changer, mais de l'intérieur. Bien sûr, si la pensée reste conforme en tout point à celle du monde, à celle de l'homme naturel, c'est qu'on s'est opposé ou qu'on s'oppose à l'action de renouvellement, de recréation que le Saint-Esprit veut entreprendre en chacun et chacune de nous. C'est aussi inclus, je crois, dans l'avertissement que Paul donne aux Thessaloniciens, un verset très court, mais très important, n'éteignez pas l'esprit. Que faut-il faire pour éteindre l'esprit, me direz-vous? Ah, c'est très facile, justement, rien. Mais pour être un disciple, il est nécessaire de se soumettre à la loi de l'esprit de Dieu qui demeure en nous. Et sa loi, c'est le caractère de Jésus-Christ recréé en chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas à obéir à 613 commandements, comme dans l'ancienne loi mosaïque, non. C'est recréer l'image du Christ en chacun, en chacune de nous. Autrement, comment pourrions-nous, de par notre seule force, avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comme a dit Paul? Quand vous lisez le sermon sur la montagne, que la plupart d'entre vous connaissent sûrement, où Jésus donne les caractères, les vertus essentielles du disciple, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, etc. Et il commence par les pauvres en esprit d'ailleurs. Quand nous lisons le sermon sur la montagne, à un non-croyant, à une personne qui n'est pas engagée envers le Christ, il nous traitera d'utopistes, c'est fort possible, il nous traitera de gens qui ne sont pas tellement réalistes, qui n'ont pas tellement les pieds sur la terre, en disant « mais c'est pas possible, personne ne peut aller à un tel idéal ». Et si vous vous mettez à sa place, de son point de vue à lui, il n'a pas tout à fait tort, la perfection n'est pas de ce monde, car cet enseignement du Christ sur les vertus du disciple n'a jamais été destiné aux non-croyants spécifiquement. Et c'est pour le disciple que cela a été donné. Quelque chose qu'on oublie parfois. C'est pour celui qui est animé par la force du Saint-Esprit que les béatitudes ont été données par le Christ. D'ailleurs, cette discipline intérieure du Saint-Esprit vise à ne produire en nous que des choses de valeur plutôt que de consacrer notre énergie mentale à des choses nuisibles ou sans grande importance pour nous. Dans le grec du Nouveau Testament, le mot discipline veut dire littéralement sauver l'esprit, avec l'idée, si vous voulez, d'un autocontrôle, d'une discipline, de tout l'être à partir d'un esprit régénéré, à partir d'un esprit purifié. Toute discipline spirituelle doit donc s'opérer d'abord au niveau de l'esprit, dans les attitudes mentales que nous adoptons. Le reste suivra naturellement. C'est-à-dire, bien sûr, le reste des vies changées, des vies régénérées, des vies utiles. Mais tout doit partir de la pensée, tout doit partir de l'esprit du disciple. Dans le monde où nous vivons, justement, nous sommes agressés constamment et de toutes les manières, dans nos pensées. Mais c'est à nous de résister à ces influences de l'extérieur, parce que nous en avons reçu la capacité de la part de Dieu. Par conséquent, essayons de nous remettre ces choses en mémoire au cours de la semaine. Essayons d'y songer, essayons de les méditer, chacun pour lui-même. Un disciple est celui qui obéit à une discipline. Mais ne voyons pas dans le mot « discipline » quelque chose de négatif, quelque chose de répressif, car ce serait manquer le point du véritable sens du mot « discipline ». Souvenons-nous que la règle de vie à laquelle Jésus nous appelle, en l'imitant, est le chemin béni, est le chemin des richesses, est le chemin de la gloire. Le seul qui peut nous combler de toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour les siens. On a une très mauvaise notion, bien souvent, du mot « discipline ». On associe ça à châtiment, c'est pas vrai. C'est pas exact. Pas dans le sens biblique. La discipline du Saint-Esprit vise à faire de nous de plus en plus l'image du Seigneur, l'image de la gloire de Dieu. Oui, un chemin étroit et resserré, un chemin qui n'est pas facile, c'est vrai. Le Seigneur n'a jamais dit que ça serait facile. Mais quel chemin? Quel chemin? Et surtout, quelle destination? Qu'a donc ce monde, qu'a donc cette société de si précieux à nous offrir pour que nous hésitions encore? Passez en revue les choses les plus glorieuses que ce monde pourrait vous apporter, les unes après les autres, la richesse, la gloire, la réussite, et encore, mais n'oubliez pas que pas une d'elles n'ira au-delà de la tombe, pas une d'elles n'ira au-delà du trou béant de la tombe. Mais quand on connaît les vraies valeurs, celles qui iront au-delà de la mort elle-même, justement, et c'est ça qui est important, alors quelques sacrifices, à mon avis, valent bien la peine d'être faits, quel que soit le prix. Et pour ne parler que de cette vie-ci, ne croyez-vous pas que la vie du disciple vaille la peine d'être vécue, même en dehors de l'héritage de gloire qui nous attend aux cieux? Oui, la vie du disciple vaut la peine d'être vécue. Ainsi qu'il est écrit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, et la raison est donnée, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen.